Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies, avec en titre « Le Conseil de sécurité ouvre la voie à la levée des sanctions contre l'Iran ». La FAO inquiète de l'apparition de la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest. Le point sur les opérations de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons aussi sur l'inauguration des mausolées de Tombouctou. Et notre partie magazine sera consacrée à l'ouverture du procès d'Hissène Habré et à la recherche contre le cancer. Le Conseil de sécurité a adopté ce matin à l'unanimité la résolution 2231 sur le programme nucléaire iranien. Une adoption dont s'est félicité le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon a estimé que cette adoption permettra d'assurer l'application du plan global d'action conjoint approuvé le 14 juillet dernier à Vienne. La résolution ouvre la voie au retrait éventuel de toutes les sanctions liées au nucléaire contre l'Iran. Elle garantit aussi que l'Agence internationale de l'énergie atomique continuera à vérifier la conformité de l'Iran avec ses engagements liés au nucléaire dans le cadre du plan global d'action. On écoute le représentant permanent de la France, François Delattre, qui s'est notamment réjoui de voir ainsi conforter l'autorité du Conseil et du système de sécurité collectif.
La France salue l'adoption de cette résolution qui constitue un moment historique tant pour la paix et la sécurité internationale que pour notre Conseil. Après 12 années de crise nucléaire, un accord a enfin pu être trouvé le 14 juillet à Vienne avec l'Iran à l'issue de plusieurs mois de négociations intensives. Cet accord trace d'abord un chemin exigeant vers l'établissement de la confiance dans le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. Il prouve la pertinence et la solidité de notre régime de non-prolifération. Cet accord contribuera aussi à la stabilité régionale et internationale. Un Iran doté de l'arme nucléaire aurait déstabilisé encore plus cette région, déjà traversée par tant de crises. À l'inverse, avec cet accord, nous pouvons écrire ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire de cette région.
La FAO réclame 20 millions de dollars suite à l'apparition de foyers de grippe aviaire hautement virulente H5N1 dans des élevages de volailles et des exploitations familiales au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Ghana. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture craint que sans intervention, la maladie ne se répande, même si à ce jour, aucun cas clinique ou décès n'a été enregistré chez l'être humain. On écoute Juan Nubros, chef de la division santé animale de la FAO.
Tout d'abord, sachant que ce virus pourrait être une zoonose, il faut que les services vétérinaires dans les ministères de l'agriculture et de l'élevage travaillent en étroite collaboration avec les ministères de la santé pour sensibiliser à la prévention, à la réponse et à la gestion d'une éventuelle épidémie locale ou régionale. Par ailleurs, beaucoup peut être fait pour renforcer les systèmes vétérinaires en collaboration avec le secteur privé. Les commerçants, à petite ou grande échelle, peuvent aider à sensibiliser aux bonnes pratiques, à la façon de reconnaître la maladie, d'en rendre compte et en cherchant une alliance avec le secteur privé.
Près d'un mois après l'adoption de la résolution 2226 du Conseil de sécurité, les casques bleus de l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire sont en train de devenir une force de plus en plus dynamique, capable d'aller à la rencontre des populations des zones les plus reculées du pays. Le général Didier Lhote, commandant des casques bleus de l'ONUCI, indique qu'une force de réaction rapide a d'ailleurs été déployée dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire avec des résultats plutôt satisfaisants. Ces activités sont aussi marquées par l'approche de l'échéance électorale de 2015. On écoute le général Didier Lhote.
Aujourd'hui, je dirais que l'indice de sécurité dans le pays s'est quand même amélioré. Je crois que tous les acteurs qui travaillent sur ces élections sont en train de faire un travail de fond très important. Au niveau de l'ONUCI, tout le monde est arc-bouté vers cette échéance majeure. Donc aujourd'hui, il y a quand même lieu d'être plutôt optimiste. En l'état actuel des choses, je dirais également que la population est lasse de ces guerres intestines qui n'apportent pas grand-chose, mais essentiellement des souffrances pour cette population et elle a envie de tourner la page et de voir un pays en plein développement comme devrait l'être la Côte d'Ivoire.
Et puis la directrice générale de l'UNESCO était au Mali où elle a participé samedi à Tombouctou à l'inauguration des mausolées reconstruits après avoir été saccagées par des groupes armés en 2012. Irina Bokova a notamment rendu hommage aux maçons de Tombouctou pour leur courage et leur savoir-faire qui a permis la reconstruction de ces édifices dont les plus anciens remontent au XIIIe siècle. Les explications de Lazare Etundu, représentant de l'UNESCO au Mali.
En 2012, quand Tombouctou a été occupé, ces mausolées du patrimoine mondial qui sont vraiment très importants pour la vie culturelle et religieuse de Tombouctou ont été saccagés pour empêcher les populations de pratiquer leur culture. Avec l'appui sécuritaire, l'appui logistique de la MINUSMA, que je tiens à remercier, qui est quand même quelque chose de très important, parce que sans la MINUSMA, tout ce travail n'aurait pas été possible. C'était une belle démonstration de comment les Nations Unies peuvent être solidaires et travailler ensemble sur le terrain, toutes les agences des Nations Unies, avec la mission de maintien de la paix.
Chaque année, plus de 26 millions de personnes sont déplacées en moyenne suite à une catastrophe naturelle, soit une personne par seconde. C'est ce qu'indique un rapport publié ce lundi à Genève par l'Observatoire des situations de déplacement interne. Ce document indique aussi qu'en 2014, la majorité des déplacements ont eu lieu en Asie, où plus de 16 millions de personnes ont été obligées de fuir leur maison suite à des tempêtes, inondations, tremblements de terre ou éruptions volcaniques. Alfredo Zamudio est le directeur de l'Observatoire.
Nous avons constaté que la distribution inéquitable des richesses, les agglomérations non planifiées ou établies dans des zones propices aux catastrophes sont trois des cinq principales causes de déplacement suite à une catastrophe naturelle. Il importe donc d'identifier ces facteurs ainsi que les politiques de développement inéquitable. Si la seule économie qui prospère est celle d'une grande ville, un pays doit alors modifier la manière dont est effectué le développement sur le plan interne. Si la croissance est uniquement possible si le développement néglige la sécurité, ce développement ne peut pas être durable. Les déplacements provoqués par les catastrophes naturelles sont un problème humanitaire, mais les causes et la solution sont du ressort du développement et de la manière dont on aborde les questions de développement.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zahed Raad al-Hussein, s'est félicité lundi de l'ouverture du procès de l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, devant une cour spéciale au Sénégal. Le haut-commissaire a déclaré qu'il s'agit là d'un tournant pour la justice en Afrique et que ce procès devant les chambres extraordinaires africaines est d'une importance considérable. Plus de détails avec sa porte-parole, Cécile Pouilly, jointe par Daniel Johnson.
Nous nous félicitons aujourd'hui de l'ouverture du procès de l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, devant une cour spéciale qui a été mise en place par le Sénégal. C'est vraiment un tournant pour la justice en Afrique et c'est un message très clair pour les dirigeants qui sont accusés de crimes graves. Ils ne doivent pas supposer qu'un jour et qu'indéfiniment ils vont pouvoir échapper à la justice. De nos jours, il y a vraiment de bonnes chances pour qu'ils soient rattrapés par leurs crimes et je pense que c'est un message très important dans la lutte contre l'impunité que l'ouverture de ce procès aujourd'hui.
On a mis un peu de temps pour que cette situation puisse avoir lieu. Quand même, vous pouvez nous éclairer un petit peu tout le travail que vous avez fait pour que aujourd'hui puisse avoir lieu.
Alors, notre bureau qui est basé au Sénégal a vraiment soutenu très très activement ces dernières années les efforts du Sénégal et du Tchad pour que justice soit faite et bien sûr nous allons suivre le procès en cours. Mais bien entendu, il faut souligner la quête inlassable de justice des victimes. Ce sont vraiment les victimes, les familles des victimes qui, plus de 25 ans après qu'Habré ait quitté le pouvoir et trouvé refuge au Sénégal, qui font que ce procès aujourd'hui est possible. Devant chaque obstacle, ils ont trouvé des solutions. Ils ne se sont jamais laissés décourager. Quelle que soit l'actualité judiciaire, les problèmes qui ont pu survenir, elles ont toujours continué, poursuivi leur combat pour obtenir que justice soit faite pour les violations très très graves des droits de l'homme qui ont été commises pendant les 8 années du régime Habré, des tortures, de nombreuses disparitions forcées, des meurtres. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le courage de ces victimes qu'il faut souligner.
Et la justice, il sera entendu au Sénégal, mais il y aura quand même de la communication avec les victimes au Tchad. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un système en place pour que les victimes au Tchad puissent être écoutées?
La Cour spéciale qui a été mise en place au Sénégal a d'ores et déjà engagé des efforts de sensibilisation au Tchad parce qu'en effet, il est très important qu'il y ait vraiment une communication entre cette Cour et la population tchadienne. Et il faut que la conduite de ce procès, ce soit l'opportunité pour la population tchadienne d'avoir un véritable sentiment d'appropriation de ce procès. Il ne faut pas que parce que ce procès a lieu dans un autre pays, il y ait une distance qui se crée. C'est une page de l'histoire l'histoire du Tchad qui s'écrit aujourd'hui. Ce sont essentiellement des victimes tchadiennes qui ont souffert sous le régime Abré. Il est donc très important que la Cour poursuive ses efforts pour faire comprendre la portée du procès, pour que la population tchadienne puisse suivre son évolution et bien sûr son aboutissement.
Parce qu'en fait, l'avenir du pays ne peut pas aboutir sans se passer en tranquillité, sans comprendre tout ce qui s'est passé avant.
On a vu dans de nombreux pays qui ont été meurtris par des guerres que pour que la page se tourne et pour que la paix sociale se reconstruise durablement, il faut pouvoir mettre en lumière ce qui s'est passé sous des régimes où des violations très graves des droits de l'homme ont été commises, comme a été le cas sous le régime Abré. Et il faut que les personnes responsables soient traduites en justice. Cela permettra en effet au pays d'avancer.
Fréquence santé.
Le Centre international de recherche sur le cancer fête cette année son 50e anniversaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Et le nombre de nouveaux cas devrait augmenter d'environ 70% au cours des deux prochaines décennies. Pour faire le point sur les avancées scientifiques les plus marquantes, mais aussi sur les défis à venir, nous avons contacté le directeur du CIRC, Christopher Wild.
Je pense que déjà le travail qui a été effectué sur justement les facteurs de risque pour le cancer du col de l'utérus, ce virus papillon humain, parce que nous avons conduit des études épidémiologiques qui ont démontré l'importance de ce virus. Et par la suite, il y a eu un développement d'un vaccin basé sur ces observations épidémiologiques et aussi le développement des tests de dépistage précoce du cancer. Donc, on a vu dans ce domaine une forte traduction de la recherche vers la prévention. Donc, c'est sûrement un exemple. Et je citerai peut-être une autre chose qui est un peu associée avec la recherche, mais qui est très importante. C'est le nombre de chercheurs venant des pays en voie de développement qui ont été formés en collaboration avec le centre. On a fait notre propre recherche, mais on a aussi facilité, je pense, la recherche sur le plan mondial. Et pour nous, c'est une grande fierté aussi.
Vous avez parlé des recherches pour le vaccin et le dépistage. A-t-on pu chiffrer combien de vies ont pu être sauvées grâce à ces avancées?
Oui, parce qu'avec le vaccin combiné avec le dépistage précoce, il n'y a pas de raison qu'une femme maintenant meure de ce cancer du col de l'utérus. Et on a à peu près 500 000 nouveaux cas par an en ce moment dans le monde entier. La majorité se trouve dans les pays en voie de développement. On peut vraiment faire une différence énorme sur le plan international basé sur cette connaissance scientifique.
Et quel est le plus grand dossier de recherche à l'heure actuelle dans le domaine de la recherche contre le cancer?
Je pense que le domaine de la nourriture, de l'obésité et la transition entre la malnutrition et le surpoids est très important. Mais pas simplement identifier les facteurs de risque, mais décider comment on peut intervenir pour réduire le risque. On n'a pas encore les outils pour lutter contre ces cancers associés avec le surpoids et le manque d'activité physique. Donc là, c'est un sujet où on doit vraiment se consacrer pour pouvoir justement identifier les interventions qui vont être efficaces pour le futur.
Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est là une nouvelle génération de cancer qui n'était pas si prévalent avant et qui est vraiment lié à une évolution plutôt négative des styles de vie?
On voit effectivement cette transition entre les cancers qui étaient déjà bien connus dans les pays industrialisés. Et là, maintenant, on commence à voir ce même fléau qui apparaît dans les pays en voie de développement. Mais on a encore le temps d'intervenir et de lutter contre cette évolution.
Et inversement, est-ce qu'il y a maintenant des types de cancers qui ont à présent complètement disparu?
On voit une diminution dans certains cancers, justement, qui sont associés avec les infections, par exemple, cancer du col de l'utérus, de l'estomac et même maintenant le cancer du foie, parce qu'on a aussi vu un vaccin contre l'hépatite B qui est de plus en plus disponible dans les pays où il y a une forte infection avec ce virus. Et là, on n'a pas encore vu la diminution en cancer, mais en nombre de cancers, mais ça va sûrement suivre parce qu'on a maintenant les populations qui sont vaccinées à 90% ou plus.
Et c'est avec Christopher Wild que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.